Bonjour frères et sœurs. Eh bien, c'est une grande joie, d'abord dans la communion avec notre Dieu et Jésus-Christ, son Fils, qui est au milieu de nous. Il est là. Et nous aussi, nous sommes là. Là où deux ou trois viennent en son nom ou pour son nom, il est là. Il est là, Jésus. Et parce qu'il est là, je vais faire très attention à ce que je dis. Pourquoi? Parce que il contrôle tout. Il y a quelque temps, comme je l'ai déjà dit, mais maintenant je termine quand même ma pensée, c'est une grande joie d'être avec vous, comme je l'étais hier avec les bien-aimés qui se sont réunis l'après-midi, hier après-midi. J'étais heureux de participer, d'être avec eux à ce culte, comme je suis là avec vous ce matin. Et nous bénissons et nous remercions le Seigneur. Je voudrais prier un instant, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dignes de toi. Je ne suis pas digne de toi. Je pourrais même dire ceci. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais tu dis un mot et nous sommes guéris. Mais toi, dans ton amour, à cause de ton amour et de tes compassions, de ta grande miséricorde, non seulement tu es entré dans notre maison, mais tu es entré dans notre cœur. Et ta parole nous dit que la maison de Dieu, c'est nous. Moïse était un serviteur fidèle dans ta maison, mais toi, tu es le fils de ta maison. Alors, nous sommes fiers que tu sois le propriétaire de chacun de nous. Nous sommes fiers de t'appartenir et nous sommes fiers de ce que tu nous as fait connaître, ton Dieu, qui est maintenant notre Dieu. Tu as dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Merci Jésus. Merci de tout notre cœur. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, nous allons prendre la bonne parole de Dieu, bien sûr. Nous ne voyons pas autre chose de qui que ce soit à prendre et discuter et obéir. Il y en a un seul. Vous avez comme moi un seul maître. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alors, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean. Jean 8. Verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, » Jésus, en parlant de lui, il dit qu'il est le Fils de l'homme, « alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et bien sûr que cela a soulevé des problèmes. Les Juifs qui étaient là, pieux, qui étaient croyants, qui croyaient en Dieu, et surtout qui suivaient plus ou moins la loi de Moïse, quand ils entendaient Jésus les enseigner, leur parler, et qu'ils parlaient de Dieu, ils étaient choqués. Choqué pour la plupart parce que Jésus disait que Dieu était son père. Alors ça, il comprenait plus rien. Et lorsqu'il est allé à Nazareth, eh bien, on disait, ben oui, on connaît la famille de Jésus. La famille de Jésus, c'est Joseph, c'est Marie, ce sont ses frères. Parce que après que Marie ait mis au monde le Seigneur Jésus, eh bien, l'Écriture dit qu'il y a une période dans l'Ancien Testament où il fallait que les femmes, n'est-ce pas, restent un certain temps sans quoi que ce soit, faire quoi que ce soit. Parce qu'il y avait la pureté à revenir. Et bien sûr, comme elle était vierge et qu'elle a mis au monde Jésus, selon ce que le Saint, selon ce que l'ange Gabriel est venu lui dire, eh bien, Joseph, après, a connu Marie. Et ils ont fait des enfants. Ils ont fait des garçons et des sœurs, des filles, les sœurs de Jésus. Frères et sœurs, malheureusement, l'adversaire, nous n'ignorons pas son nom, s'appelle le diable, Satan. On ne peut pas ignorer son nom. Et on ne peut pas non plus ignorer son mauvais travail pour essayer d'aller jusque dans le temple, si je peux prendre cette expression, et aller même dans l'église du Seigneur pour essayer de changer la parole de Dieu. Et vous savez, les théologiens, les grands théologiens, ceux qui prétendent tout expliquer, bien qu'ils ne comprennent rien du tout, eh bien, ces hommes ont dit, mais non, Jésus n'a jamais eu de frère ni de sœur. C'est pas vrai, ce sont ses cousins. Je vais pas passer mon temps à reprendre ces choses-là, mais c'est faux. Nous lisons ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit, c'est la vérité de Dieu. Et nous n'avons pas à nous occuper de ce que disent les uns ni les autres. Aucun homme sur la terre n'a de pouvoir pour nous dire autre chose, puisqu'un seul homme qui prétend avoir un pouvoir est là aujourd'hui, et en puissance, il est déjà enterré. Or, il y en a un seul pour moi qui a toute autorité et toute connaissance, et que j'écoute, et que je reçois, et que je rends témoignage de lui, c'est Jésus-Christ. Voilà. Dieu l'a envoyé pour rendre témoignage à la vérité. Eh bien, c'est vrai que les Juifs, la plupart, il y en a quand même qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, qui ont été sauvés par Jésus-Christ, bien sûr, mais la plupart ne croyaient pas en lui. Et l'Écriture dit dans l'Évangile de Jean, malgré que tous les miracles que fit Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Mais cela a été écrit, c'est écrit là, dans les quatre évangiles, mais il est écrit ceci, que cela, les miracles ont été écrits, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il a prouvé sa divinité par tous ces miracles que Dieu faisait au travers de lui. Et en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, il n'est pas question pour chacun d'entre nous de laisser qui que ce soit essayer d'enlever ce que Jésus dit, mais nous nous dégageons de toute personne et nous nous engageons de tout notre cœur à prendre à la lettre et selon l'Esprit toute la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et Jésus lui-même le dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis cela pour que nous puissions tous ensemble continuer autant que Dieu nous dit aujourd'hui, continuer à marcher avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Jésus dit ceci, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Eh oui, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours, quoi, qu'est-ce qu'il fait toujours Jésus? Ce qui est agréable à son Père. Notre problème à nous, qui que nous soyons, que vous soyez convertis depuis 50 ans ou de 6 mois, nous faisons de temps en temps ce qui est agréable à Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai? Eh oui. Et c'est dommage. C'est dommage pour nous parce que nous n'avons pas beaucoup d'années devant nous pour rattraper le temps perdu. L'Écriture dit ceci, Dieu nous dit, c'est Dieu qui parle et dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qui aurait pensé, il y a quelque temps, quelques mois d'ici là, que un virus arriverait? Qui l'aurait pensé? Vous savez, quelquefois nous disons, mais nous sommes riches, nous avons beaucoup, nous avons presque rien. Si nous avions en France et dans le monde encore d'authentiques prophètes, l'Écriture dit que Dieu ne fait rien sans en parler à ses prophètes. Eh bien, les prophètes, malheureusement, il n'y en a pas en France, dans les églises évangéliques, qui soient des assemblées de Dieu, qui soient d'autres assemblées. Il n'y en a pas. Dommage. Parce que si le peuple de Dieu s'était sanctifié et avait marché comme Dieu le veut, Dieu aurait suscité les prophètes. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais malheureusement, nous sommes riches en Christ, mais encore pauvres sur le plan spirituel. Mais béni soit Dieu de ce que nous avons sa miséricorde et qui nous fait grâce. Que son bon nom soit béni. Pourquoi je dis cela, mes frères et sœurs? Parce que le monde n'aurait pas su. Parce que le monde ne croit que ce qui est en lui. Il ne croit ni en Dieu, ni en Jésus, ni en diable. Le monde est sous la puissance du malin. Il est enténébré et personne ne peut sortir le monde des ténèbres sauf Jésus. Parce qu'il est la lumière et nous en a sorti des ténèbres. Nous étions bien dedans, moi le premier, comme vous. Eh bien, s'il y avait eu des prophètes, ils auraient annoncé à toutes les églises du Seigneur, mes frères, mes sœurs, Dieu va permettre qu'il y ait un virus. Ils auraient averti et on aurait pris des dispositions. Vous vous rappelez d'Agabus? Est-ce que vous avez entendu parler d'Agabus? Qu'est-ce qu'il était? Des prophètes, et il a annoncé la famine. Oui ou non? Il a dit, la famine va venir. Parce que Dieu lui a parlé, il lui a dit, je vais envoyer la famine. Et qu'est-ce qu'il a fait à Agabus? Il l'a dit, aux églises. Et qu'est-ce que l'église ont fait? Oh, mais on va voir si ça vient. Non, ils ont pris ça au sérieux. Quand on prend la parole de Dieu, vraiment, au plus grand, d'une manière solennelle, alors Dieu se révèle davantage à nous. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé de la nourriture pour secourir ceux qui allaient dans la famine. Elle est arrivée, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que des fois, ma mémoire, elle commence à flancher, je crois que c'est arrivé sous Claude. C'est pas Claude Gentil. Oh, oh. Sous l'empereur Claude. Voilà. Si la promesse tarde, attends-la. Tout ce que Dieu dit s'accomplira à la lettre. Tout ce que les hommes disent, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autre chose. Que Dieu, mes frères et sœurs, que notre Dieu, le Dieu vivant que nous servons, qu'on a le privilège d'apprendre à le connaître au travers de Jésus, de la parole de Dieu, eh bien, que notre Dieu, n'est-ce pas, nous protège et nous garde toujours dans sa main et qu'il bénisse Israël, son peuple aimé à cause de leur père. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, continuons un petit peu encore, s'il vous plaît. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus a fait toujours ce qui était agréable à Dieu. Pour le temps qui me reste à passer sur la terre comme vous, il faut que nous puissions, moi comme vous, chercher à faire tout ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ça ce qui est le plus important. Est-ce que ce que je fais, c'est agréable à Dieu? Si c'est pas agréable, j'arrête. Tout de suite, j'arrête. Ouais, mais il faut pas arrêter. Faut continuer. Non, j'arrête. Pourquoi tu arrêtes? Parce que je veux être agréable à Dieu. Et alors, Vous me direz, oui, mais qu'est-ce qui lui est agréable? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Prenez Actes chapitre 10. Ah, ça commence. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. C'était un officier dans l'armée romaine, centenier dans la cohorte dite italienne. Il ne faut pas oublier que Israël était occupé par les Romains. Et nous rappeler aussi qu'il y a quelques années de cela, la France est occupée par les Allemands. Oui ou non? Moi, je les ai vus, les Allemands entrer dans la ville de Cabourg, en Normandie, occupés. Eh bien là, c'était les Romains occupés. Et Corneille était officier dans l'armée romaine. Et vous savez que les Romains, ils recevaient les ordres d'un homme nommé César, qui à un certain moment, c'était toute une série de Césars. Il n'y en a pas qu'un, il y en avait beaucoup qui ont vécu. Et certains se sont donné même le titre de Dieu. Et lorsque selon l'histoire, lorsque les gens se réunissaient et qu'ils le voyaient, ils disaient « Ave César !» Oh, quand on lève les mains « Ave César !» Vous avez entendu parler qu'il y avait l'aigle romain?
Oui.
Il y a quelques années, il y avait l'aigle allemand. L'aigle allemand. Et c'était plus Ave César, c'était Heiter. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous ne disons pas ni Ave César, ni Heiter. Donc gloire à Dieu.
Amen.
Et gloire à Jésus.
Amen.
Voilà ce que nous disons. L'agneau qui a été immolé, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, car c'est lui seul qui nous a rachetés pour Dieu en versant son sang et qui a fait de nous un peuple et des sacrificateurs et nous régnerons avec lui sur la terre. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. L'adversaire profite de ce qui se passe là en ce moment pour essayer même de décourager les chrétiens. Et en même temps, je vais plus loin, Dieu est en train de faire un tri. Ah, pourquoi ce frère ne vient plus? Pourquoi? Et parce que Dieu ne s'arrête pas à la langue, Dieu ne s'arrête pas à l'apparence, mais Dieu s'arrête au cœur. Et quand l'enfant de Dieu passe par l'épreuve, eh bien, au lieu de se retirer, il dit, je vais m'attacher encore plus au Seigneur pour montrer au Seigneur que je l'aime véritablement. Dieu a dit ceci en parlant de l'attitude de ses enfants en Israël pendant une époque. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Eh bien, que nos lèvres se taisent un peu plus et que notre cœur parle davantage. N'aimez pas en parole, mais en action. Et nos actions, c'est que quand on vit un temps difficile, il faut être là. Et je dis pour les serviteurs de Dieu, j'en fais partie, eh bien, un peu comme les officiers d'Israël, quand il y a eu la guerre terrible avec les Arabes, la guerre même des six jours, eh bien, c'est pas les officiers qui étaient là, dans un blocos, et qui donnaient des ordres. C'est eux qui partaient, et les soldats suivaient. Eh bien, notre officier, plus qu'officier, plus que général, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui part toujours en avant. Nous le suivons, et c'est la victoire. Voilà. Car sans Jésus, on peut rien faire. On peut discuter, on peut promettre, on peut faire de belles prédications. D'abord, ce n'est plus la peine de faire des prédications, parce que avec leur appareil Internet et compagnie, ils préparent des prédications pour qui le veut. Il y a maintenant des prédications toutes prêtes, sont fabriquées, il n'y a plus qu'à se les procurer, au travers de l'Internet et tout ce que vous voulez, et puis l'homme, il monte sur l'estrade et puis il répète. Comment le diable est vraiment le malin? Mais nous, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous avons le devoir de faire ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est tout. Et un prédicateur qui prêche des paroles fabriquées par des théologiens, par des gens qui font que ça, c'est un perroquet. Et Dieu n'est pas venu pour sauver les perroquets, il est venu pour chercher, pour sauver l'être humain. Et ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand on l'aime de tout son cœur. Et Dieu disait, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Ô Dieu, ce matin, Seigneur Jésus, crée en nous un cœur pur, afin que nous puissions être exaucés dans nos prières. Quand tu dis dans ta sainte parole, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. On peut très bien prier à faire pleurer les autres, mais en même temps avoir de la colère et de mauvaises pensées. Mais l'Écriture dit que le coupable devra son salut à la pureté de tes mains. Dieu ne regarde pas seulement notre physique, il regarde le fond de notre cœur. Ô notre Père, notre Dieu, sonde nos cœurs et nos reins ce matin. Et s'il y a quelque chose en nous qui est resté depuis, même avant de se convertir, qui a repris place ou qui a repris place, détruis-le. Qu'il n'y ait aucune mauvaise racine qui puisse produire des rejetons et infecter l'Église. Mais que la pureté soit notre cœur, parce que Seigneur Jésus a dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu est bon, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que Jésus est bon aussi, qu'il est plein de miséricorde, plein de bonté, plein de patience, plein de persévérance, plein de longanimité. Dieu est merveilleux parce qu'il a une patience extraordinaire avec nous. Comme l'apôtre dit aux Hébreux, vous devriez être des maîtres, vous devriez être d'avancer, mais vous êtes devenus lents, lents. Plus on est lent avec Dieu, plus on est rapide dans le monde pour faire nos affaires. Eh bien, il faut que ça change. Rapide avec Dieu et lent avec le monde. Vous avez compris? Très important. On n'est pas compte. Dans la parole de Dieu, il est dit, Éternel, sauve! Sauve, Éternel! Parce que les hommes pieux s'en vont. Eh bien, faut que l'on fasse partie des hommes pieux. L'apôtre Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Parce que l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. C'est pas beau d'être pieux. Mais bien que Dieu permette, et nous permette tous, du plus petit au milieu de nous, jusqu'à le plus grand, mais le plus grand c'est Jésus, eh bien, qu'il puisse faire de nous tous des frères et des sœurs remplis de piété. D'accord? Et vous allez voir comme l'Église, la lumière va grandir, va jaillir. On n'aura pas besoin de faire des publicités avec des tas de papiers, le Seigneur les amènera ici. Le Seigneur vous amènera des âmes. Et vous, vous aurez qu'une seule chose à faire quand vous faites si bien. Vous leur rendrez témoignage de Jésus. Vous leur direz ce que Jésus a fait pour vous et comment vous êtes fiers de le servir et de le connaître. Vous êtes d'accord? Alors, Corneille, cet homme était... Tiens! Il était quoi? des pions. Un formidable sort. Laissez-moi un peu gratter ma tête. Cet homme était pieux. Mais parce qu'il était pieux, il m'intéresse. Le poète violent aurait pu faire souffrir le peuple qui était sous la puissance de Rome, et comme il était officier, pour envoyer des soldats pour les faire souffrir. Eh bien non. Il était officier dans l'armée, mais il était pieux. On va voir sa piété, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, vous avez raison, même si vous ne l'étiez pas, je l'irai quand même. Il était pieux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et craignait Dieu. Oh là là là, ça, en ce moment, Dieu me fait travailler dans ce sujet extraordinaire, mais ça va, tout se rassemble très vite. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Vous savez ce que c'est, craindre Dieu? C'est le respecter. Et quand on craint Dieu, on ne craint pas les hommes. On ne craint pas le diable. On ne craint personne. Il craignait Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Hein? C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement. Ça veut dire qu'avant la sagesse, on a sacré degré de folie. On est des insensés. Mais quand on se met à craindre Dieu, Dieu voit et amène de la sagesse en nous. Non pas comme la sagesse du monde. C'est une folie aux yeux de Dieu. Car si les hommes, avec leur sagesse, avaient connu Dieu, n'auraient jamais crucifié Jésus. La sagesse du monde, Dieu dit, c'est la folie. J'ai mal dans mon cœur. Non pas j'ai mal dans mon cœur physique, mais j'ai mal dans mon cœur parce qu'en France, c'est la France, je vis en France, et vous avec. J'ai mal dans mon cœur de ce qu'il n'y a pas un homme politique, qui soit de gauche, qui soit de droite, qui soit du centre, n'a pas un seul qui sonne de la trompette et qui prétend être chrétien, et n'a pas un seul qui se lève pour dire « Il faut prier Dieu et prier Jésus-Christ. » Alors, nous on le fait pour eux. Nous on le fait pour eux. Parce que sinon on le fait pas, vous allez voir comme ça va aller mal, dont on va subir les conséquences. Un petit ordre qui arrive du ministère de l'Intérieur et de la Santé, l'Église est fermée. On ne pourrait même plus se réunir une seule fois pendant longtemps. Mais le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et vous savez, il y a quelques jours, je me grattais pas la tête, mais je me faisais du souci. J'écoute les informations. Oh là là! Il fallait pas décoller de la télé à ce moment-là, hein. J'écoutais parce que j'attendais que le Premier ministre nous dise ce qui va se passer. Et à un certain moment, vous savez ce que j'ai entendu? Très court. Pour les cultes, il n'y a rien de changé. Un tout petit! Dis, Seigneur, tu as entrouvert la porte. Alors là, et puis après j'ai entendu 10 kilomètres. Ça c'est pour les Parisiens, les garçons et les filles. Mais après j'ai entendu plus de 30 kilomètres pour les cultes. Je me suis mis à nager dans le bonheur. Et je suis toujours dans le bonheur. Parce que nous avons prié. Parce que notre cœur a souffert. Non, Seigneur, déjà, avec tout ce qui nous arrive, Seigneur, nous t'en supplions, ne nous empêche pas de nous réunir. Nous n'avons pas besoin de prendre un appareil pour voir le culte assis sur notre fauteuil et puis dire, maintenant, je suis au culte. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Si vous êtes malade et que il y a un culte, que ce soit de Mulhouse ou d'ailleurs, vous êtes malade, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes malade. Et que vous pouvez regarder profitez-en, mais choisissez qui prêche et qu'est-ce qu'il prêche. Si vous êtes, malheureusement, si vous êtes trop âgé et vous pouvez plus venir, je le comprends également. Et même si vous ne pouvez plus prendre la Sainte Cène en venant au milieu de nous comme on le fait, alors signalez-nous et puis nous enverrons un frère de confiance, bien sûr. Il y a des anciens, il y a des frères qui aiment le Seigneur Jésus ici, et tous, bien sûr, mais il y en a qui sont plus qualifiés que d'autres spirituellement. Alors nous leur enverrons pour prendre la Sainte Cène avec vous. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous êtes chez vous, dans la région parisienne, et que vous êtes en forme, ne restez pas assis chez vous, parce que Dieu est pas d'accord. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie là la bénédiction de l'Éternel. Elle fait quoi? Elle enrichit. Elle ne fait suivre aucun chagrin.
Amen.
Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est clair ce que je vous ai dit? C'est clair? Ah, béni soit notre Seigneur. Faut que je revienne. Mon ami, je voudrais prendre du repos, mais il faut que je revienne. Mais oui, parce que c'est le prélude. Encore deux, trois petites minutes. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il craignait Dieu. C'est-à-dire, il respectait Dieu. Il avait des dévotions à l'égard de Dieu. Et puis, vous savez ce qu'il faisait? Avec toute sa maison. Ça veut dire que sa piété, elle s'est répandue dans sa maison. Que c'est beau, ça. Oh, il aurait pu se cacher. Il aurait pu dire, oh là là, moi je vais pas prier Dieu, le Dieu des Israélites. Non, parce que si César l'apprend, il va me dégager. Il n'avait pas honte. Il a rendu témoignage à toute sa maison. Et à ses amis. Et vous rappelez quand Pierre est venu? Eh bien, tous ont été baptisés du Saint-Esprit et baptisés d'eau. Les païens entraient dans le salut par la porte grande ouverte de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, moi, je fais partie avec vous de ceux qui sont entrés par cette porte. Pourquoi? Parce que j'étais perdu. Et quand j'ai trouvé la porte, qui est Jésus, j'étais sauvé. Et parce que je suis resté derrière cette porte où est Jésus, je reste sauvé. Et il n'est pas question pour moi de faire demi-tour pour repartir voir ce qui se passe dans le monde. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le ciel. Là où Dieu se trouve, là où Jésus est. À lui soit toute la gloire. Alors, frères et sœurs, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Moi, je trouve que c'est un exemple à suivre. Priait Dieu continuellement. Et vous savez, je vais vous dire ceci. Le fait qu'il faisait tout ça, eh bien, il était sauvé. Oh, j'ai entendu un amen. Eh bien, non, il ne faut pas dire amen. Oh non, non! On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ. La preuve, c'est qu'un ange est venu. Il lui a dit, Corneille, l'ange a bougé. Tu as envoyé un ange. Moi, j'ai jamais eu d'ange qui est venu. Il y a peut-être un qui est venu, mais c'est pas fait. Il m'a pas dit qu'il était ange. Je vais faire un petit peu d'humour. Il y en avait un qui s'appelait Archange. Oh, il n'a pas oublié notre frère Archange, non? Il est auprès du Seigneur. Bon, là, je fais de l'humour, excusez-moi. Il dit, Corneille, ta prière et tes aumônes, Dieu les a entendues. Et tu vas faire venir l'apôtre Pierre. Lui,
Il te dira des choses pour que tu sois sauvé. Le salut ne vient point de nos œuvres, même les plus belles, mais quand on fait le bien, on est agréable à Dieu. Prier Dieu continuellement, ça lui plaît. Faire des aumônes, aider les pauvres, ça lui plaît. Vivre dans la piété, ça lui plaît. Et c'est la porte qui s'ouvre pour aller à la grande porte qu'est Jésus-Christ. Et lorsque Pierre a annoncé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu a envoyé du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, et quiconque invoque son nom, c'est le seul nom que Dieu a donné, il est sauvé. Et pendant que Pierre expliquait cela, le Saint-Esprit descendait. On n'a pas fait de recherche du Saint-Esprit. Il est descendu. Ils se sont tous mis à parler en langue et glorifier Dieu. Et Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Mes frères et sœurs, ce sont mes derniers mots maintenant. Ce n'est pas de votre faute. Ne vous culpabilisez pas. Mais nous avons laissé rentrer au milieu de nous des jeunes gens, des jeunes filles qui ne se sont jamais convertis et qui ont fait semblant. Ils ont pensé que c'était bien, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors écoutez bien ceci. Il faut que maintenant, on ne court pas après le nombre, il faut 50, 60, 80. Il faut, je vous dis ce qu'il faut. Et le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce qu'il faut. Et que des Simons de magiciens et toutes sortes de personnes qui soi-disant se convertissent et à la moindre occasion ils s'en vont, stop! Maintenant il faut des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui acceptent Jésus, qui passent par la nouvelle naissance et qui marchent avec Dieu et Jésus et qui acceptent de souffrir pour Dieu et pour Jésus, et qui font front à l'adversaire pour lui résister et pour le chasser de leur vie, pour que Jésus-Christ soit le premier servi, glorifié, adoré, ainsi que Dieu, jusqu'à notre mort. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci.